Chers frères et sœurs et chers amis, vous savez que cette étude est de la plus haute importance. En tout cas, j'ai reçu cela dans mon cœur ainsi, car il s'agit de mieux connaître plus profondément, plus réellement, avec réalité, Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous sommes à l'étude numéro 13 de cette importante série et le titre aujourd'hui, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Chers amis, cette étude est très, très importante. Aussi, je vous conseille de réécouter cette étude de temps en temps, car, voyez-vous, nous vivons à la fin de cette dispensation de la grâce. Ça, croyez-moi, c'est une réalité. Chers auditeurs, un Dieu jaloux, eh bien l'expression peut paraître choquante, car la jalousie, ce monstre aux yeux verts, nous apparaît comme un vice, un des vices les plus sournois et les plus destructeurs qui soient. Or Dieu, nous le savons très bien, il est parfaitement bon. Qui aurait jamais pu imaginer qu'il soit ou qu'il se soit trouvé en Dieu de la jalousie, qu'il puisse être jaloux? Nous aurons fait un premier pas vers la réponse lorsque nous aurons clairement établi qu'il n'y a aucune place ici pour l'imagination. S'il nous fallait imaginer un Dieu, nous ne lui attribuerions bien entendu que les traits de caractère qui font notre admiration et la jalousie ne figurerait certainement pas au tableau. Personne n'irait imaginer un Dieu jaloux. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas nous forger une idée de Dieu en faisant appel aux ressources de notre imagination, bien au contraire. Ce que nous voulons, c'est rester à l'écoute de ce que dit l'Écriture sainte, dans laquelle Dieu lui-même nous révèle la vérité sur sa personne. Car Dieu, notre Créateur, que notre imagination ne nous aurait jamais permis de découvrir, il s'est révélé lui-même. Il a parlé au travers de beaucoup d'hommes qu'il a lui-même envoyés ou utilisés, et il a parlé en dernier lieu par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'a pas laissé à la tradition orale le soin de déformer ou d'oublier ses messages et ses hauts faits, mais il les a, bien au contraire, consignés sous une forme écrite afin qu'ils puissent demeurer. Et c'est donc là, dans la Sainte Bible, le témoignage public de Dieu, comme l'appelait Calvin, que nous découvrons un Dieu qui parle à maintes reprises de sa jalousie. Lorsque Dieu a eu fait sortir l'Égypte, eh bien le peuple d'Israël, et qu'il a conduit au Sinaï pour lui faire connaître sa loi, oui, il l'a fait sortir de l'Égypte. C'était vraiment une histoire extraordinaire. Et il les a conduits au Sinaï pour leur faire connaître sa loi et établir avec lui son alliance, donc une des premières choses que Dieu apprit au peuple à son propos, cela fut qu'il était un Dieu jaloux. Eh bien, la sanction qui accompagnait le second commandement, clairement annoncé à Moïse, puis écrit du doigt de Dieu sur des tablettes de pierre, selon Exode chapitre 31, verset 18, contenait l'affirmation suivante. Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode chapitre 20, verset 5. Et un peu plus tard, Dieu adresse à Moïse ses paroles plus saisissantes encore. L'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Exode chapitre 34, verset 14. Et à cause de la place qu'il occupe dans l'Écriture sainte, ce dernier texte est extrêmement significatif, car en effet, un des thèmes fondamentaux du livre de l'Exode, c'est la révélation du nom de Dieu, ce qui signifie toujours dans l'Écriture sainte la révélation de sa nature et de son caractère. Dieu s'était nommé aux Exodes chapitre 3, Je suis celui qui suis, ou simplement Je suis. Et au chapitre Exode 6, il est dit Jéhovah l'Éternel. Ces noms nous le font donc connaître comme ayant une existence propre et comme étant indépendant et souverain. Et puis Exode chapitre 34, verset 5. Dieu proclame son saint nom à Moïse en lui disant que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, qui pardonne l'iniquité, mais aussi qui punit l'iniquité. Voyez-vous? Il faut pas seulement s'arrêter avec simplement l'amour de Dieu et avec un Dieu qui pardonne l'iniquité à éternellement, à toujours. Mais il faut aussi lire la suite qui punit l'iniquité. C'était donc là un nom qui établissait la perfection morale de Dieu. Sept versets plus loin, enfin, au cours du même entretien avec Moïse, Dieu résume ce qu'il a dit et achève de révéler son saint nom en déclarant que ce saint nom veut aussi dire Dieu jaloux. Il est évident que ce terme inattendu correspond à une qualité de Dieu et loin de contredire la proclamation du nom de Dieu qui vient d'être faite. Il en est en quelque sorte le résumé. Puisque cette qualité représente en un sens le saint nom de Dieu, il est de toute évidence importante que son peuple comprenne sa signification. En fait, la Bible dit beaucoup de choses sur la jalousie de Dieu et les références à ce sujet ne manquent pas. On en trouve un peu partout dans le Pentateuque, au nombre, dans le livre des Nombres, au commencement de votre Bible, chapitre 25, verset 11, dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 24, chapitre 6, verset 15, chapitre 29, verset 20, chapitre 32, verset 16 et le verset 21. J'ai bien dit Deutéronome. En allemand, ils ont das erste Buch Moses, das zweite Buch Moses, das dritte Buch Moses, etc. Donc, nous avons dit le Deutéronome en français. Dans les livres historiques, tels que dans le livre de 1 roi, chapitre 14, verset 22, Josué, chapitre 24, verset 19, ensuite dans les prophètes, Ézéchiel, chapitre 8, verset 3 à 5, chapitre 16, verset 38 et le verset 42, et ça continue, je dis Ézéchiel, chapitre 23, verset 25, chapitre 36, verset 5, chapitre 38, verset 19, chapitre 39, verset 25. Ensuite, Zacharie, chapitre 1, verset 14, chapitre 8, verset 2, et dans les psaumes, chapitre 78 ou 78, verset 58, et le chapitre 79, verset 5, et il apparaît constamment comme un mobile d'action, que cette action soit miséricordieuse ou qu'elle soit punitive. Il n'y a pas que la miséricorde. Il est dit, je serai jaloux de mon saint nom. Ézéchiel chapitre 39, verset 25. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Zacharie, chapitre 1, verset 14. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul demande aux Corinthiens remplis de présomption, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 22. Enfin, dans l'épître de Jacques, il y a une phrase qui est difficile à comprendre, chapitre 4, verset 5 de l'épître de Jacques, mais que la nouvelle traduction de la Bible, dite à la colombe, rend sans doute très justement, et aussi certaines versions anglaises et allemandes, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous, qu'il a fait habiter en nous. Voyez-vous, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit Saint qu'il a fait habiter en nous. Quelle est donc la nature de la jalousie divine? Comment se fait-il que la jalousie puisse être vertu chez Dieu et puisse être un vice chez l'homme? Voyez-vous, il y a contradiction, mais il y a sûrement une raison, et nous allons voir cela de plus près. Les perfections de Dieu sont des sujets de louange, mais comment pouvons-nous louer Dieu pour sa jalousie? Nous pourrons apporter une réponse à ces questions à condition de nous souvenir de deux choses. Premièrement, lorsque la Bible parle de la jalousie de Dieu, elle utilise pour décrire Dieu un vocabulaire emprunté à la vie des hommes. La Bible parle du bras, de la main et du doigt de Dieu, de son oui, de sa vue, de son odorat, de sa tendresse, de sa colère, de sa repentance, de son rire, de sa joie, etc. Si Dieu se sert de termes semblables, c'est parce que le vocabulaire qui s'applique à notre propre vie, la vie humaine, est le moyen le plus approprié dont nous disposons pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer le concernant. Dieu est une personne, nous aussi. Aucune autre créature de la création ne présente cette analogie. De toutes les créatures, seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puisque nous sommes donc plus semblables à Dieu que toute autre créature connue, C'est le vocabulaire humain qui est plus que tout autre, susceptible de nous éclairer et de nous éviter les erreurs lorsque Dieu se fait connaître à nous. Il nous faut donc nous souvenir que ce n'est pas l'homme qui est la mesure de son Créateur et qu'appliquer à Dieu le langage qui s'applique généralement à l'homme ne signifie nullement qu'il faille également lui attribuer les limitations inhérentes à la créature. Nous avons une connaissance limitée, en tout cas moi, une puissance limitée, prescience, force, logique, il me semble limité. Nous devons nous souvenir que l'aspect négatif de ces qualités, dû à l'action corruptrice du péché, n'existe absolument pas chez Dieu. Et c'est ainsi, par exemple, que la colère de Dieu, elle n'a rien à voir avec ce méprisable déchaînement qu'est si souvent la colère humaine. Elle ne traduit pas, comme elle, un orgueil mêlé de faiblesse, mais elle est une réaction sainte face au mal, une réaction moralement juste, bonne et digne de louange. La colère de l'homme n'accomplit pas la juste ou la justice de Dieu. Vous pouvez noter Jacques chapitre 1 verset 20. Mais la colère de l'homme, elle est différente. La colère de Dieu accomplit par contre précisément sa justice dans un cadre judiciaire. Alors, dans le même ordre d'idées, la jalousie de Dieu n'est pas ce mélange de frustration, d'envie et de dépit qu'est si souvent la jalousie humaine, mais elle apparaît bien au contraire comme un zèle louable, au sens littéral du mot, qui s'emploie à préserver quelque chose d'extrêmement précieux. Ceci nous conduit à notre second point. Deuxièmement, il existe chez les hommes deux sortes de jalousie dont une seule est un vice. Il y a une jalousie qui est une disposition d'esprit que l'on peut résumer en ces termes. Je désire ce que tu as et je te haïs parce que je ne le possède pas. Ça, c'est un geste d'animosité infantile qui naît d'une convoitise à laquelle on a laissé libre cours et qui se manifeste par l'envie, par la méchanceté et par la mesquinerie. C'est une jalousie terriblement puissante car elle se nourrit d'orgueil et elle nourrit l'orgueil, cette racine de notre déchéance. Donc il y a dans la jalousie humaine un élément obsessionnel, maladif, capable, si on lui donne libre cours, de détruire totalement un individu par ailleurs solide. La fureur, elle est cruelle, et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Proverbe 27, verset 4. Je répète ce passage et de temps en temps je fais cela quand c'est très important. On a dit deuxièmement, il existe chez les hommes deux sortes de jalousie dont une seule est un vice. Il y a une jalousie qui est une disposition d'esprit que l'on peut résumer dans ces termes. Je désire ce que tu as, et je te haïs parce que je ne le possède pas. C'est un genre d'animosité infantile qui naît d'une convoitise à laquelle on a laissé libre cours et qui se manifeste par l'envie, la méchanceté et la mesquinerie. C'est une jalousie terriblement puissante, car elle se nourrit d'orgueil et elle nourrit l'orgueil, cette racine de notre déchéance. Il y a dans la jalousie humaine un élément obsessionnel, maladif et capable, si on lui donne le libre cours, de détruire totalement un individu qui serait même très solide. La fureur est cruelle et la colère, elle est impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie, nous dit le Proverbe 27, verset 4. Ce que l'on appelle généralement jalousie sexuelle, cette fureur démente d'un soupirant évincé ou remplacé, relève de ce genre de jalousie. Mais il existe un autre genre de jalousie qui se traduit par une ardeur extrême à protéger une relation d'amour ou à la venger lorsque elle a été brisée. Cette jalousie se rencontre également dans le domaine sexuel, mais elle n'a rien à voir avec la réaction aveugle d'un orgueil blessé. Elle apparaît plutôt comme un fruit de l'attachement conjugal. Donc, le professeur Tasker, il a écrit que des époux qui n'éprouveraient aucune jalousie si une tierce personne, amoureux ou amant, s'introduisait dans leur foyer, manqueraient certainement de sens moral, car l'essence même du mariage est son caractère exclusif. Donc cette jalousie-là, c'est une vertu, car elle témoigne de la compréhension du véritable sens de la relation qui unit un mari à sa femme en même temps que de l'ardent désir très naturel de garder cette relation intacte. Dans l'Ancien Testament, la loi reconnaissait la légitimité d'une telle jalousie et prévoyait un recours au jugement de Dieu qui permettait au mari, saisi d'un esprit de jalousie, d'avoir une certitude, quelle qu'elle soit. Nombre, le livre des Nombres, chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 37. Pas plus là que dans les Proverbes, chapitre 6, verset 34, où il est fait allusion à la jalousie du mari trompé, l'Écriture sainte ne remet en question la valeur morale d'une telle attitude. Elle considère, au contraire, la détermination de l'époux prêt à protéger son union contre toute attaque et à prendre les mesures nécessaires contre quiconque viendrait la profaner comme une chose naturelle, normale et juste qui prouve qu'il reconnaît au mariage toute sa valeur. L'Écriture sainte envisage toujours la jalousie de Dieu sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle de l'amour que Dieu porte à son peuple dans le cadre de l'alliance. L'Ancien Testament considère l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël comme étant un mariage avec tout ce que ce terme implique d'amour et de loyauté absolue. Toute compromission avec les païens, tout culte rendu aux idoles, sont autant d'actes de désobéissance et d'infidélité que Dieu regarde comme des adultères spirituels, lesquels provoquent sa jalousie et réclament sa vengeance. Dans les textes mosaïques, la jalousie de Dieu est toujours liée au culte des idoles sous quelque forme qu'ils se présentent, et tous les passages relatifs à cette jalousie se réfèrent à la sanction qui accompagne le second commandement dont nous avons parlé précédemment. Donc, il en est de même dans le livre de Josué, vous pouvez noter chapitre 24, verset 19, dans le premier livre des Rois, chapitre 14, verset 22, les Psaumes, chapitre 78, verset 58, et pour le Nouveau Testament, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 22. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, verset 3, le prophète donne à une idole qui était vénérée à Jérusalem, il lui donne le nom d'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Au chapitre 16 du livre d'Ézéchiel, Dieu parle d'Israël comme de son épouse adultère, compromise dans des liaisons impies avec les idoles et les idolâtres de Canaan, d'Égypte et d'Assyrie, et il prononce contre lui cette sentence « Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. » Ézéchiel, chapitre 16, verset 38, et le verset 42, également toujours Ézéchiel, chapitre 23, verset 25. Ces passages nous font parfaitement comprendre ce que Dieu voulait dire lorsqu'il disait à Moïse que son saint nom était jaloux. Il exigeait de la part de ceux qu'il avait aimés et qu'il avait rachetés avec une loyauté totale et absolue, et il défendrait donc ses droits en punissant sévèrement les siens au cas où ceux-ci trahiraient son amour en se montrant infidèle. Calvin mettait les points sur les i en donnant de la sanction qui accompagne le second commandement. L'explication, elle est la suivante, et je la répéterai parce qu'elle est importante. Ce n'est pas une chose nouvelle au Seigneur de prendre la personne d'un mari envers nous. De même, quand tout et partout, il fait l'office d'un fidèle mari. Aussi, de notre part, il demande que nous lui gardions amour et chasteté de mariage, c'est-à-dire que nos âmes, ne soient point abandonnées au diable. Aussi, de même qu'un bon mari, d'autant qu'il est plus fidèle et loyal, et d'autant plus courroucé s'il voit sa femme déclinée à quelque paillard, de même le Seigneur, qui nous a épousés en vérité, témoigne qu'il a une jalousie merveilleuse toutes les fois qu'en méprisant la chasteté de son mariage, nous nous contaminions de mauvaises concupiscences et principalement quand nous transférons ailleurs sa gloire, qui sur toute chose lui doit être conservée en son entier. Je répète, ce n'est pas chose nouvelle au Seigneur de prendre la personne d'un mari envers nous, de prendre cet exemple. De même, quand tout est partout, il fait l'office d'un fidèle mari, aussi de notre part il demande que nous lui gardions amour et chasteté de mariage, c'est-à-dire que nos âmes ne soient point abandonnées au diable. Aussi de même qu'un bon mari, d'autant qu'il est plus fidèle et loyal, et d'autant plus courroucé, il est fâché s'il voit sa femme décliner à quelque paillard. De même le Seigneur, qui nous a épousés en vérité, il témoigne qu'il a une jalousie merveilleuse toutes les fois qu'en méprisant la chasteté de son mariage, nous nous contaminons de mauvaises concupiscences et principalement quand nous transférons donc ailleurs sa gloire qui, sur toute chose, lui doit donc être conservée en son entier. Car voyez-vous, en ce faisant, non seulement nous rompons la foi que nous lui avons donnée en mariage, mais aussi nous polluons notre âme par paillardise. Il nous faut encore aborder un autre point. Voyez-vous, si nous voulons faire toute la lumière sur cette question, la jalousie que Dieu ressent pour son peuple présuppose, nous l'avons vu, son amour dans le cadre de l'Alliance. Cet amour n'est pas une affection éphémère, fortuite et sans objet, mais elle est, bien au contraire, l'expression d'un dessein souverain. L'amour de Dieu, elle a un but, lui permettre d'avoir sur cette terre un peuple qui lui appartienne véritablement aussi longtemps que ce monde durera et lui permettre d'avoir ensuite avec lui dans la gloire tous ceux qui lui ont été fidèles à travers les âges. Et c'est en dernière analyse, à la lumière de ce plan général que Dieu a conçu pour le monde, qu'il nous faut comprendre sa jalousie, car la Bible le dit, l'objectif final de Dieu, il est triple, c'est d'établir son autorité et sa justice après avoir démontré sa souveraineté en jugeant le péché. Racheter et sauver les élus, être aimé et glorifié par eux pour l'œuvre glorieuse d'amour et de justification qu'il a accomplie. Dieu recherche ce que nous devrions aussi rechercher, c'est-à-dire sa gloire au travers des hommes et en eux, et c'est finalement pour assurer la réalisation de cet objectif qu'il se montre jaloux. Quelle que soit la façon dont elle se manifeste, la jalousie de Dieu se confond avec le zèle, de l'Éternel des armées qui se déploie pour que s'accomplisse son dessein de justice et de miséricorde. Notez Ésaïe, chapitre 9, verset 6, chapitre 37, verset 32, et Ézéchiel, chapitre 5, verset 13. La jalousie de Dieu le conduit donc, d'une part, à juger et détruire ceux de son peuple qui se sont montrés infidèles et sont tombés dans l'idolâtrie et le péché. Deutéronome, chapitre 6, verset 14, et Josué, chapitre 24, verset 19. Mais aussi, bien sûr, tous ceux qui, en tout lieu, se montrent ennemis de la justice et de la miséricorde de Dieu. Ézéchiel 36, versets 5 et 6. Elle le conduit d'autre part à restaurer son peuple après qu'il a été châtié et humilié par une condamnation de dimension nationale, condamnation à la captivité. Zacharie chapitre 1 verset 14 et chapitre 8 verset 2. Les fléaux de sauterelles, rappelez-vous toute l'histoire de Moïse. Ces actions sont uniquement motivées par le fait que Dieu est jaloux de son saint nom. Ézéchiel 39 verset 25. Son saint nom, c'est ce qu'il est par essence, c'est sa personne, c'est Jéhovah l'Éternel, c'est le maître de l'histoire dont le saint nom doit être, bien entendu, reconnu, honoré et être glorifié. Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon saint nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42, verset 8 et Ésaïe 48, verset 11. C'est dans ces textes que se trouve révélée la raison profonde de la jalousie de Dieu. Quelle est la portée pratique de tout ceci pour ceux qui se réclament du peuple de Dieu? Nous aimerions apporter deux éléments de réponse. Premièrement, nous avons la jalousie de Dieu qui exige notre zèle. Oh, ça c'est important. Il y en a qui n'en ont pas du tout du zèle. Ils ont des mots ronflants, mais ils n'ont pas le zèle. Donc la jalousie de Dieu, elle exige mon zèle. Même si je suis fatigué, face à l'amour que Dieu nous porte, il n'est qu'une bonne attitude possible, c'est de l'aimer en retour. Et face à sa jalousie, il n'est aussi qu'une bonne attitude possible, nous montrer zélé pour lui. Nous avons une grande importance à ses yeux et la réciproque doit être vraie. Dans le second commandement, l'interdiction d'adorer les idoles sous-entendait que le peuple de Dieu devait se montrer totalement et passionnément consacré à la personne, à la cause et à l'honneur de Dieu. Pour exprimer une telle consécration, la Bible emploie le mot « zélé », parfois aussi l'expression « jalousie pour Dieu ». Dieu lui-même, nous l'avons vu, déploie un tel zèle et les hommes pieux, les hommes qui ont une foi et un amour véritable en leur Seigneur, doivent imiter l'amour de Dieu. L'évêque Ryle, un théologien fabuleux d'autrefois, décrit ce que veut dire ce zèle pour Dieu. Et cette description est devenue un classique. La citation in extenso est dans le domaine religieux. Le zèle Ce zèle est un désir brûlant de plaire à Dieu, de faire sa volonté et de travailler à l'avènement de son règne glorieux dans le monde de toutes les façons possibles. C'est là un désir qu'aucun être ne ressent naturellement, car c'est l'esprit qui le met au cœur de chaque croyant après sa conversion. Mais certains croyants, contrairement à d'autres, le ressentent avec une telle intensité que seuls ceux qui le méritent peuvent être donc appelés être zélés. Oui, nous devrions prier pour que le Seigneur nous mette dans le cœur, dans l'âme, dans notre être tout entier, d'être davantage scellés pour lui, pour le servir, pour que des âmes puissent être sauvées. Car pour chaque âme, pour chaque personne qui peut être sauvée, soit par vos prières, soit par un tract, un évangile, n'importe, eh bien, il est dit que de très nombreux péchés te seront pardonnés et que tout le ciel, les myriades d'anges s'en réjouiront, selon les versions biblique que vous prenez das Albrecht Neue Testament ou das Mülheimer Neue Testament. Donc, voyez-vous, dans le domaine religieux, un homme zélé est avant tout l'homme d'une seule idée. Voyez-vous? C'est beau, ça, non? Dans le domaine religieux, un homme, une femme. Vous savez, quand la Bible dit l'homme, s'il vous plaît, mes chères sœurs, ne soyez pas choquées, je vous demande pardon. C'était autrefois écrit ainsi, mais ça veut dire vous, mes très chères sœurs, vous y êtes compris. Du reste, soyons sincère, honnête, il y a beaucoup plus de femmes qui se donnent au Seigneur actuellement que d'hommes. L'homme est beaucoup trop orgueilleux, il est trop imbu de lui-même, parfois trop macho, tandis que la femme, elle est capable de plus d'humilité, de plus de simplicité. Moi qui étais, enfin c'est une jeune fille qui m'a adoptée il y a très longtemps, et c'est par elle que j'étais éduquée. Elle m'a tout appris. C'était une sainte. Et nous les hommes, nous devrions avoir un grand respect, un grand amour et énormément de tendresse pour nos épouses. Excusez-moi de cette dérogation. Donc, dans le domaine religieux, un homme zélé est avant tout l'homme d'une seule idée. Ce n'est pas assez de dire qu'il est plein d'ardeur, empressé, fidèle, profond, sincère et fervent d'esprit. Il n'a qu'une idée en tête, il ne vit que pour une seule idée. Il n'est absorbé que par une idée, et cette idée, c'est de plaire à Dieu. L'homme zélé ne se soucie pas de vivre ou de mourir, d'être riche ou d'être pauvre, de plaire ou de déplaire aux hommes, de passer pour sage ou un peu fou, d'être blâmé ou loué, d'être traité avec honneur ou avec mépris. Il ne brûle que pour une seule idée, et cette seule idée, c'est de plaire à Dieu et de travailler à l'avancement de son règne glorieux. Qu'il se consume lui-même dans ce feu, peu lui importe, il est heureux. Il sait que c'est une lampe, il est fait pour brûler, et s'il se consume dans ce feu, il ne fait qu'accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Un être tel que celui-là trouvera toujours à employer son zèle. S'il ne peut prêcher, travailler ou donner de son argent, il pourra pleurer, soupirer et prier. S'il ne peut, vous avez compris mes sœurs, ça vous concerne, pardonnez-moi, c'est vrai, s'il ne peut, si elle ne peut combattre dans la vallée avec Josué, il, et je complète elle, luttera avec Moïse, Aaron et Hur sur la colline. Exode 17, versets 9 à 13. S'il se trouve empêché de travailler lui-même, il ne laissera pas de repos au Seigneur avant que la relève ne soit assurée et le travail accompli. Voilà ce que j'entends lorsque je parle de zèle. Voyez-vous, dans notre domaine religieux. Remarquons, mes chers amis, que l'Écriture fait du zèle l'objet d'un commandement et d'une recommandation. Oui, les chrétiens doivent être zélés ou devraient l'être, et cela aussi pour les bonnes œuvres. Bien sûr que ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Vous le savez probablement encore mieux que moi. Notez Tite, chapitre 2, verset 14. Alors, après avoir essuyé des reproches, les Corinthiens reçoivent des éloges à cause de leur zèle. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 11. Il y a, je ne veux pas les nommer parce que ce ne serait pas gentil de ma part. Pire, ce serait méchant. Mais il existe des personnes, si vous leur parlez à la façon allemande, d'être plus scellés, que ce ne serait pas un péché. Et cette fameuse phrase qui a été mal utilisée, méchamment, mais le fond n'est pas tout faux. Arbeit macht frei. C'est pas tout faux. Voyez-vous, parce que si nous voulons nous laisser aller à la nonchalance extrême, eh bien, ce ne sera pas ce que le Seigneur désire. Il ne pourra pas, par l'Esprit Saint, nous aider à avancer. C'est impossible. Nous devons faire, nous, les premiers pas. C'est nous qui devons être humbles et soumis au Seigneur, et ce n'est pas à lui d'être notre servante, de faire le premier pas. il est Dieu. Voyez-vous? Donc, Élie, par exemple, il déployait son zèle, rappelez-vous, pour l'Éternel des armées. Notez 1 roi, chapitre 19, verset 10 et le verset 14. Et Dieu a rendu honneur à ce zèle en envoyant un char de feu qui a emporté Élie au ciel et en le choisissant comme représentant de la grande communauté des prophètes pour se tenir avec Moïse bientôt, beaucoup plus vite que vous pouvez l'imaginer, j'ai dit bientôt. Sur la montagne de la Transfiguration et s'entretenir avec le Seigneur Jésus-Christ, mais pour revenir pour le temps de l'Antéchrist féroce. Voyez-vous, lorsque l'idolâtrie et la prostitution d'Israël avaient provoqué la colère de Dieu avec raison, et que Moïse a eu condamné à mort les coupables, il a condamné à mort les coupables. Un homme est venu délibérément se pavaner devant le peuple en larmes, avec au bras une courtisane madianite. Oui, eh bien, Phinée, qui est devenu à moitié fou de désespoir, les tua, il les tua tous les deux d'un coup de lance, et Dieu approuva même Phinée, qui avait été zélé pour son Dieu, animé de mon zèle, de son zèle, en sorte que je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël, dit le Seigneur. Nombre, chapitre 25, versets 11 et 13. Oui, ça paraît curieux, mais c'est profondément vrai. Oui, voyez-vous, Phinée, qu'on comprend, était jaloux d'une jalousie saine. Il était même désespéré. Je suis sûr que vous, mes chers frères et mariés, vous seriez quand même un peu désespérés si votre femme était séduite par un belâtre, fortuné en plus, qui avec sa Ferrari l'invite. Évidemment, je dis là une histoire un peu romantique, à la façon Blanche-Neige, un peu irréelle, mais ça existe. Ça existe, surtout de nos jours. Oh là là, ça existe. Et il ne faudrait pas trop être étonné et en vouloir au mari s'il peut avoir une souffrance de jalousie qui lui fait péter les plombs. Et là, on voit que Dieu a même approuvé Phinée, qui avait été zélé pour son Dieu. Il était animé, oui, de mon zèle, est-il dit, en sorte que je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Nombre 25, versets 11 et 13. Saint Paul, ah, quel homme fabuleux, était un homme zélé. Il était loyal et il était entièrement dévoué à son Seigneur. c'était pas un individu qui était venu zélé que sur le tard, comme c'est mon cas malheureusement, et croyez-moi, j'en suis pas fier, mais j'en ai honte. Ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé le Seigneur depuis plus de 50 ans. Non. Mais vous pouvez, mais je ne parle pas pour vous, je n'ai pas le droit. Je peux aimer le Seigneur par égoïsme, en pensant, merci Seigneur que je suis sauvé. Tant pis pour les autres. Qu'ils se débrouillent comme ils pourront. Voyez-vous ce que j'essaye de dire? Enfin, mais je ne juge pas, attention. Je parle pour moi. Et je sais que le Seigneur m'a fermement et parfois même douloureusement traité pour que je puisse comprendre que ce que je ne voulais pas tellement comprendre. Alors, pour revenir à notre zélé apôtre Paul, saint Paul, sachant même qu'il allait souffrir, être emprisonné, il disait, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ah, quel homme magnifique! Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Oui, n'ayez pas peur de lire. Die Apostelgeschichte. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même fut l'exemple suprême du zèle. C'était le modèle zélé. Croyez-vous qu'il avait peur ou qu'il disait, je veux aller m'étendre sur un hamac à Hawaï ou Honolulu, au bord de la mer, pour me bronzer au soleil. Lorsque il le regardait purifier le temple, eh bien ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Saint Jean, chapitre 2, verset 17. Qu'en est-il pour nous maintenant? Qu'en est-il pour nous? Vous pouvez me croire ou pas me croire. Depuis la mort de ma sainte épouse, j'ai peut-être pas le droit de dire ça, mais elle était merveilleuse. Elle est morte il y a 20 ans par négligence médicale, par faute médicale. Et j'ai failli de péter les plombs. Oui, ça aurait pu arriver de faire une grosse dépression. Et cela n'aurait pas été quelque chose de méprisant. Mais bon, je me suis jeté dans la prière. Et aussi dans beaucoup de repentance. Oui, qu'en est-il pour nous, mes chers amis? Le zèle de la maison de Dieu et de la cause de Dieu, est-ce que ce zèle nous dévore, nous possède-t-il, nous consume-t-il? Pouvons-nous dire avec le Maître, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, Saint Jean chapitre 4 verset 34. J'étais sauvé, Il y a plus de 50 ans, bien sûr. Il y a même plus de 60 ans. Mais je n'étais pas zélé. Quel genre de disciples sommes-nous? Ressentons-nous le besoin de faire monter vers Dieu une prière semblable à celle de l'ardent évangéliste George Whitefield, dont l'humilité égalait le zèle? Il disait: Seigneur, aide-moi à commencer et à recommencer. Deuxièmement, la jalousie de Dieu, par contre, cette jalousie est une menace pour les églises qui ne manifestent aucun zèle pour Dieu, croyez-le ou croyez-le pas. Nous aimons nos églises, ce sont de saintes associations, et nous avons du mal à imaginer qu'elles puissent déplaire à Dieu, ou du moins lui déplaire sérieusement. Mais le Seigneur Jésus-Christ envoya un jour un message à une église qui ressemblait beaucoup à certaines églises d'aujourd'hui. C'était l'église de Laodicée qui était si fière d'elle-même. Et dans ce message, le Seigneur disait aux membres de cette église que leur manque de zèle constituait pour lui la pire offense. Il a dit: Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est ce que j'étais il y a plus de 60 ans. Et heureusement que le Seigneur m'a rattrapé par les oreilles. Et c'est à l'âge de bientôt 86 ans que je travaille très dur. C'est le moment ou jamais. Enfin, on peut en rire un peu, au fond, j'en ris pas tellement. Puisses-tu être froid ou bouillant? Sauf cette apathie satisfaite. Ainsi, attention, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh là là, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Nous terminerons par cela, pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller un peu. Et donc, mon cher ami, ma très chère sœur, et peut-être j'ai pas besoin de le dire aux sœurs, elles le sont souvent. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, verset 15 jusqu'au verset 19. On peut toujours se repentir et revenir au Seigneur. Il nous enveloppera de ses bras d'amour, comme autrefois ce Père, quand il a vu de loin son fils revenir du bourbier dans lequel il s'était enfoncé. Combien de nos églises, elles aussi aujourd'hui, sont solides, respectables et tièdes? Qu'est-ce que leur dit la sainte parole du Christ? Que pouvons-nous espérer sinon par la grâce de Dieu qui, dans sa colère, se souvient de sa grande miséricorde? Avoir du zèle pour nous repentir, c'est la chose qui pourrait nous arriver de mieux. réveillons-nous et Seigneur, avant que le jugement n'arrive. Et pour ce monde, ce jugement est en train déjà d'arriver. Écoutez la deuxième série sur les prophéties de la fin des temps que j'ai terminée il y a environ 10 jours. Et parce que, voyez-vous, ils ont donné des séries dans les télévisions du monde entier, comme quoi que la fin du monde serait le 21 décembre de cette année 2012, selon les prophéties des Mayas, Nostradamus, la Sibylle, toutes ces oracles qui ont été donnés par des faux prophètes, prophètes de Satan. Et le monde le croit, puisqu'ils ont donné des séries entières qui duraient de 8h45 jusqu'à passer minuit. Et alors, nous avons essayé de mettre une ou deux annonces dans le journal, dans les journaux, dont la plupart ne les ont même pas acceptées, parce que on a essayé de mettre « Consultez votre Bible et vous aurez la vérité, sinon écoutez les deux séries sur la fin des temps que vous pouvez donc écouter gratuitement sur Internet. » Voilà, mes chers amis, nous allons terminer ensemble, tout simplement, par la prière. Oui, Seigneur, merci de m'avoir aidé par le Saint-Esprit, car sans toi, je n'aurais pas pu le faire. Seigneur, nos âmes doivent se recueillir en ta sainte présence lorsque nous nous prosternons devant toi. Mais nous sommes tellement captivés par les objets et les intérêts de cette terre que nous pouvons à peine en détourner notre attention. Et cependant, cette terre est-elle donc le lieu pour lequel nous sommes faits? N'y sommes-nous pas étrangers et voyageurs? L'homme dans la force de l'âge, la jeune fille, le petit enfant, ne se trouve-t-il pas appelé en même temps que le vieillard à quitter cette vie? Pouvons-nous donc être si légers, si insouciants, si peu sérieux? Nous devons te prier, ô Dieu de bonté, de nous rendre plus attentifs à tout ce qui concerne notre éternelle destinée, d'avoir plus de zèle pour te servir, car c'est ici le temps où nous pouvons travailler à notre salut. Veuille donc nous déprendre de tant de vaines préoccupations, de tant d'affections qui ne sont point épurées et sanctifiées par ton amour, de tant d'intérêts futiles. Veuille nous préserver de la funeste influence qu'exerce sur nous le monde et ses dangereux prestiges. Que nous n'imitions pas les insensés qui détournent la tête pour ne pas voir un abîme alors qu'ils courent s'y précipiter. Rappelle-nous et fais-nous sentir que trop souvent, même en riant, le cœur est triste lorsque on appartient au monde. tandis que pour tes enfants et pour les racheter, là, Seigneur, il y a de la joie même dans les larmes. Le sentiment de ta présence, la pensée de la brièveté de notre vie et à mon grand âge, sans j'en sais quelque chose, et l'attente de ton jugement redoutable. Cela peut seul nous rendre véritablement sérieux. Et lorsque nous le serons devenus, nous nous sentirons pressés de chercher dans ta miséricorde toute gratuite, dont le pardon que Christ nous a obtenu au prix de ses grandes souffrances et de sa mort, les assurances sans lesquelles l'âme ne peut connaître de paix. Ô bénis-nous, ô Dieu, en nous donnant des impressions sérieuses et en élevant nos cœurs et nos âmes à toi. Exauce les prières que nous t'adressons pour nos parents et nos amis. Aie pitié de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui pleurent, de tous ceux qui ne sont point encore soumis à toi, et qu'à toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Et, mes chers amis, vous pouvez vous-même terminer par ce magnifique, par cette magnifique prière qui est la prière de notre Père. Vous pouvez la faire maintenant. À bientôt à nouveau. À demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série très profonde, série sérieuse. À bientôt. Au revoir.